Chapitre 26. Le Whig.
« Ça ne me regarde pas, » dit Rez pendu à l'envers devant Marley. « Mais quelqu'un vous attend là-bas ? Enfin, je vous y emmène, d'accord. Et si vous ne pouvez pas entrer, je vous ramènerai au terminal de la JAL. Mais si personne ne veut vous laisser entrer, je n'ai pas envie de poireauter trop longtemps. Ce truc est pourri et de drôles de gens viennent traîner dans ce genre d'épave. Rez ou Thérèse, d'après ce que Marley avait lu sur le permis de pilote plastifié accroché aux commandes du Sweet Jane, avait retiré sa veste de travail pour le voyage. Marley, engourdie par l'assortiment de patchs multicolores que Rez lui avait collés sur le poignet pour lutter contre la nausée du syndrome d'adaptation à l'espace, regardait fixement la rose tatouée dessinée dans un style japonais centenaire. Malgré le brouillard dans lequel elle se trouvait, Marley l'estimait à son goût. Rez lui plaisait, elle aussi, avec son côté dur et féminin, ainsi que l'attention qu'elle portait à son étrange passagère. La pilote avait admiré sa veste et son sac à main en cuir, avant de les fourrer dans une sorte de petit filet en nylon accroché comme un hamac et débordant déjà de cassettes, de livres imprimés et de linge sale. « Je ne sais pas, » parvint à dire Marley. « Il faut que j'essaie d'atteindre... Vous savez ce que c'est ?» Rez ajusta le filet G autour des épaules et des aisselles de Marley. « Quoi ?» demanda Marley en plissant les yeux. « Là où on va ?» C'est une partie des processeurs de l'ancienne Tessie Ashpool, ce qui servait d'ordinateur central pour leur entreprise. « J'en ai entendu parler, » dit Marley en abaissant les paupières. « Andrea m'a expliqué... » « Ouais, tout le monde en a entendu parler. Tout Freeside était à eux. Ils l'avaient même construit. Puis ils ont fait faillite et l'ont vendu. Leur famille a coupé la tige et s'est placée sur une autre orbite. Mais avant, ils ont effacé les mémoires cache des processeurs, les ont cramés et les ont vendus à un ferrailleur. Lui n'en a rien fait. A priori, il semblerait que personne n'y squatte, mais là-bas, on vit où l'on peut. Tout le monde est dans le même bateau. Il paraît que cette dame Jane, la fille d'Ashpool, vit encore là où ils étaient autrefois, complètement folle. Elle tira une dernière fois de façon professionnelle sur le filet G. « Bon, détendez-vous. Je vais envoyer la sauce pour la propulsion du Jane pendant 20 minutes. Mais ça nous conduira là-bas assez vite, ce pourquoi vous me payez, j'imagine. » Marley sombra dans un paysage de boîtes, d'immenses constructions de cornelles en bois où les solides résidus d'amour et de souvenirs étaient exposés derrière des vitrines poussiéreuses et striées de pluie, et la silhouette du mystérieux concepteur de la boîte s'échappait devant elle, dans des avenues pavées de mosaïques de dents humaines, les bottes parisiennes de Marley cliquetant aveuglément contre des symboles dessinés sur des contours en or terni. Le concepteur de la boîte était un homme, portait la veste verte d'Alain, et la craignait, elle, par-dessus tout. « Je suis désolée !» cria-t-elle en le poursuivant. « Je suis désolée !»«
Ouais. Thérèse Lawrence, le Sweet Jane, vous voulez l'immatriculation ?»«
Quoi ?»«
Ouais, c'est ça, on est des pirates. Je suis ce putain de Capitaine Crochet, bien sûr. »« Bon, Jack, je vais vous filer l'immatriculation, vous n'avez qu'à vérifier. »«
Je l'ai déjà dit. J'ai une passagère. »
Je demande l'autorisation, etc. Bon sang ! Marley Trucmuche, elle parle français dans son sommeil.
Marley scia, puis ouvrit les yeux. Rez était retenu dans son filet devant elle, chaque petit muscle de son dos parfaitement dessiné.
Hé ! Dit Rez en se retournant. Désolé, je leur ai parlé de vous, mais ils ont l'air hyper bizarres. Vous êtes croyante ?
Non, répondit Marley déconcertée. Rez fit une grimace.
Alors j'espère que vous comprendrez quelque chose à ce charabia. »
Elle s'extirpa du filet et exécuta un saut périlleux arrière qui l'emmena à quelques centimètres du visage de Marley. Un ruban optique partait de sa main jusqu'aux commandes et, pour la première fois, Marley vit la jolie prise bleu ciel installée dans la peau de son poignet. Elle colla un écouteur dans l'oreille droite de Marley et ajusta le tube transparent et courbé du micro qui en partait.
« Vous n'avez pas le droit de venir nous déranger ici, »
dit une voix masculine.
« Nous œuvrons au service de Dieu, et nous seuls avons vu son vrai visage.
Allô »« Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Je m'appelle Marley Krouchkova et j'ai des choses urgentes à voir avec vous, ou avec quelqu'un à ses coordonnées. Il s'agit d'une série de boîtes, des collages. Leur concepteur pourrait être en grand danger, je dois le voir. »«
En danger ?»
l'homme toussa.
« Dieu seul décide du sort de l'homme, nous ne craignons rien, mais nous ne sommes pas non plus idiots. »
Écoutez, je vous en prie. J'ai été engagé par Josef Virek pour trouver le concepteur des boîtes, mais j'ai décidé de venir pour vous prévenir. Virek sait que vous êtes ici, et ses agents vont me suivre. Rez l'observait d'un regard froid. Laissez-moi entrer. Je pourrais vous en dire plus.
Virek ?
Un blanc, rempli de parasites, sembla s'éterniser. Josef Virek ? Oui, dit Marly, lui-même. Vous connaissez sa photo avec le roi d'Angleterre depuis toujours, s'il vous plaît.
Passez-moi votre pilote,
dit la voix. La colère et l'hystérie avaient disparu, remplacées par quelque chose qui plaisait encore moins à Marly. C'est celle de rechange, dit Rez en lui enfilant le casque à la visière miroir de la tenue rouge. Je peux me le permettre, vous me payez assez cher. Non, protesta Marly, vraiment, c'est inutile. Elle secoua la tête. Rez défaisait les fermetures au niveau de la taille de la combinaison spatiale. On n'entre pas dans un tel truc sans scaphandre, expliqua-t-elle. Vous ignorez comment est leur atmosphère, vous ne savez même pas s'il y en a une. Et il peut y avoir toutes sortes de bactéries, de spores. Qu'y a-t-il ? Le casque argenté s'abaissa.
Je suis claustrophobe.
Ah ! Rez la regarda fixement. J'en ai entendu parler. Ça veut dire que vous avez peur quand vous êtes enfermé dans des trucs ? Elle paraissait réellement curieuse. Des petits trucs, oui. Comme le Sweet Jane ? Oui, mais... Elle regarda la cabine exiguë en réfrénant sa panique. Ça, c'est encore supportable. Mais pas le casque. Elle frissonna. Bon, dit Rez. Vous savez quoi ? Vous allez enfiler cette combinaison, mais on ne va pas mettre le casque. Je vais vous apprendre comment l'attacher, d'accord ? Sans quoi, vous ne quitterez pas mon vaisseau. Sa bouche était droite et ferme. Oui, dit Marly. D'accord. Voilà comment ça se présente, expliqua Rez. Nous sommes reliés par nos sas. Quand cette écoutille s'ouvrira, vous entrez et je referme. Puis, j'ouvrirai l'autre côté. Vous vous retrouverez alors dans ce qui leur sert d'atmosphère. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas ? Non. Dit Marly en baissant les yeux sur le casque qu'elle tenait dans les gants rouges de la combinaison et sur son reflet pâle dans la visière miroir. Rez fit claquer sa langue. C'est vous qui voyez. Quand vous voulez revenir, qu'il fasse passer le message à destination du Sweet Jane via le terminal de la JAL. Marly s'élança d'un coup de pied et entra dans le sas, à peine plus grand qu'un cercueil vertical en virevoltant. Le plastron rouge de la combinaison heurta l'écoutille extérieure avec un cliquetis et elle entendit la porte intérieure se refermer en sifflant derrière elle. Une lumière s'alluma près de sa tête, lui évoquant l'éclairage d'un frigo. « Au revoir, Thérèse !» Il ne se passa rien. Elle était seule avec les battements de son cœur. Puis l'écoutille extérieure du Sweet Jane s'ouvrit. Le léger différentiel de pression suffit à l'envoyer culbuter dans des ténèbres à l'odeur ancienne et tristement humaine, lui rappelant un vestiaire abandonné depuis longtemps. L'atmosphère paraissait lourde, empreinte d'une humidité malsaine, puis sans cesser de tourner, elle vit l'écoutille extérieure du Sweet Jane se refermer derrière elle. Un rayon de lumière passa près d'elle et s'agita avant de la trouver en train de tourbillonner.
« Allume !» hurla une voix rauque. « Allume pour notre invité, Jones !»
C'était l'homme qu'elle avait entendu dans l'écouteur. Sa voix paraissait étrange dans l'immensité métallique de l'endroit, ce creux dans lequel elle tombait. Puis, un grincement retentit, et un lointain anneau de lumière bleue écrue s'alluma, lui montrant la courbe distante d'un mur ou d'une cloison composée d'acier et de roches lunaires. La surface en était striée de petits trous et rainures, taillés avec précision, où l'on rangeait autrefois de l'équipement. Des morceaux rugueux de mousse expansive marron adhéraient encore à certaines des entailles les plus profondes, tandis que d'autres se perdaient sous les ombres d'un noir absolu.
« Tu ferais mieux de lui accrocher un câble, Jones, avant qu'elle ne se fende le crâne !»
Quelque chose vint frapper l'épaule de sa combinaison avec un bruit humide, et elle se retourna pour découvrir une ventouse en plastique rose clair, entraînant une fine corde de la même couleur qui se tendit sous ses yeux avant de la faire pivoter. Le gémissement laborieux d'un moteur emplit l'immense espace en ruine, puis, doucement, ils la ramenèrent vers eux.
« Il vous en a fallu du temps, » dit la voix. « Je me demandais qui serait le premier. Et c'est donc Virek, Mammon. »
Puis, elle arriva jusqu'à eux, et ils la firent pivoter. Elle en manqua de perdre son casque. Il s'éloignait en dérivant, mais l'un d'entre eux le lui renvoya. Son sac à main, dans lequel elle avait rangé ses bottes et plié sa veste, décrivit un cercle autour de sa sangle sur son épaule et vint heurter sa tempe. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle.
« Ludgate !» tonna le vieux. « Vegan, Ludgate ! Mais vous devez déjà le savoir, c'est bien moi qui vous a envoyé couillonner, non ?»
Son visage ridé et couvert de taches était rasé de près, mais ses cheveux gris décoiffés flottaient librement, algues sur une marée d'air confinée. « Désolée, dit-elle, je ne suis pas venue pour vous duper. Je ne travaille plus pour Virek. Je suis venue parce que... Enfin, je ne sais pas trop pourquoi, en fait. Mais en chemin, j'ai appris que l'artiste qui fabrique les boîtes est en danger. Parce qu'il y a autre chose, quelque chose que Virek croit avoir et dont il pense que cela pourra le libérer de ses cancers. » Elle se tut face à la folie presque palpable qui émanait de Vegan Ludgate. Et elle vit qu'il portait la carapace de plastique fendue d'une vieille combinaison de travail, décorée de crucifix de métal bas de gamme, collée avec de la résine époxy, formant un collier autour de l'anneau du casque d'acier terni. Son visage était tout prêt. Elle sentait la puanteur de ses dents cariées.
« Les boîtes !»
De petites bulles de salive s'échappèrent de ses lèvres et obéirent aux élégantes lois de la physique newtonienne.
« Sale pute ! Elles sont de la main de Dieu !»«
Doucement, Lude !» dit une autre voix. « Tu vas faire peur à la dame, du calme !»« Madame, ce vieux Lude ne reçoit pas beaucoup de visites. Ça l'énerve un peu, quoi. Mais ça reste un vieux type inoffensif. » Elle tourna la tête et croisa deux grands yeux bleus amicaux sur un très jeune visage. « Je m'appelle Jones, » dit-il. « J'habite ici, moi aussi. » Vegan Ludgate rejeta son crâne en arrière et poussa un hurlement qui résonna contre les murs de pierre et d'acier. « Bon, en général, » disait Jones, tandis que Marley le suivait le long d'une corde à nœuds tendue dans un couloir apparemment sans fin, « il est plutôt discret. »«
Il écoute ses voix, quoi. Il parle tout seul, ou peut-être aux voix, j'en sais rien. Puis, parfois, je ne sais pas ce qui lui prend, et il fait ça. »
Lorsqu'il se tut, elle entendit de nouveau de légers échos des cris de Ludgate.
« Vous devez vous dire que c'est cruel de ma part de le laisser comme ça. Mais... c'est ce qu'il faut faire, en fait, vraiment. Il va vite se calmer, il finit par avoir faim. Alors il vient me trouver, il veut sa bouffe, quoi.
« Vous êtes Australien ? » demanda-t-elle.
« La nouvelle Melbourne, » répondit-il. « Enfin, je l'étais avant de monter dans le puits.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici ? Enfin, ici, dans ce... Qu'est-ce que c'est ?» Le garçon éclata de rire.
« J'appelle ça l'endroit, moi. » Lude lui donne plein d'autres noms, mais surtout le royaume. Il croit avoir trouvé Dieu, je vous jure. C'est sans doute le cas, en quelque sorte. D'après ce que j'ai compris, c'était un genre d'escroc du cyberespace avant de monter dans le puits. Je ne sais pas exactement comment il a atterri ici. Tout ce que je sais, c'est que ça lui convient, le pauvre. Moi, je me suis enfui, vous voyez. J'ai eu des problèmes sans rentrer dans les détails. Et je me suis tiré. Je me suis retrouvé ici, c'est toute une histoire. Et j'ai trouvé ce foutu Ludgate à deux doigts de crever de faim.
Il avait monté une sorte de business. Il vendait des trucs qu'il récupérait et aussi ces boîtes que vous cherchez.
Et il est allé un peu trop loin avec ça. Ses acheteurs venaient, je ne sais pas, trois fois par an, mais il les virait. Bon, je me suis dit que j'étais pas mal planqué ici et j'ai commencé à l'aider. Voilà quoi. Vous pouvez me conduire à l'artiste ? Il est ici ? C'est extrêmement urgent. Oui ? Ne vous en faites pas. Mais cet endroit, il n'a pas vraiment été construit pour les gens ni pour qu'on s'y déplace. Et du coup, c'est un peu long.
Mais ça ne risque pas de s'en aller en même temps.
Et je ne peux pas vous garantir que ça vous fabriquera une boîte. Vous bossez vraiment pour Virek ? Le vieux con super riche qu'on voit à la télé ?
Un Bosch, pas vrai ?
J'ai travaillé pour lui, oui, répondit-elle, pendant quelques jours. Quant à sa nationalité, je dirais qu'Er Virek est l'unique citoyen d'une nation qui ne comprend qu'Er Virek.
« Je vois !» dit Jones avec entrain. « C'est toujours pareil avec ces vieux connards de riches, j'imagine. Même si c'est plus marrant que de mater un foutu Zaibatsu. Un Zaibatsu, ça ne finit jamais aussi mal en point, pas vrai ? Prenez le vieux Ashpool, un compatriote, celui qui a construit tout ça. Il paraît que c'est sa propre fille qui lui a tranché la gorge. Et maintenant, elle est aussi déglinguée que le vieux Lude, terré quelque part dans le château familial. L'endroit était autrefois une partie de tout ça, en fait. Rez, enfin ma pilote, elle m'a parlé d'un truc comme ça. » Et un de mes amis à Paris a mentionné les Tessier Ashpool récemment. Le clan traverse une mauvaise passe ?
Une mauvaise passe, bon sang ! Il est complètement dévasté, oui !
Il n'y a qu'à voir. Nous avançons, vous et moi, dans ce qui était les processeurs et les bases de données de leur entreprise. Un entrepreneur pakistanais a tout racheté. La coque était en bon état et il y a pas mal d'or dans les circuits, mais sans doute trop cher à récupérer. Il flottait là depuis, rien qu'avec Lude pour lui tenir compagnie et vice-versa. Jusqu'à ce que j'arrive, quoi. J'imagine qu'un jour, des équipes vont débarquer du Pakistan et se mettre à le découper. Mais c'est marrant, parce qu'il continue de fonctionner en grande partie, la plupart du temps en tout cas. On m'avait raconté, et c'est à cause de ça que je suis venu ici, que TA avait dézingué les processeurs avant de s'en séparer. Et vous croyez qu'il fonctionne encore ? Ah ça oui ! Un peu de la même façon que Lude, si vous voulez. Vous croyez que c'est quoi, votre concepteur de boîte ? Que savez-vous sur Maas Biolab ? Moskoua ? Maas ? Ils fabriquent des biopuces. Ah, eux ? Bah, pas grand-chose. Ludgate parle d'eux, parfois. Possible. Je n'écoute pas trop, en fait. Et Lude, il parle beaucoup.